Bonjour, on dirait que rien ne va plus en Bretagne, en tout cas rien ne va plus chez les journalistes bretons qui, dans un texte sans précédent, une lettre ouverte sans précédent au président de la région Bretagne, prennent la parole pour dénoncer les intimidations, les autocensures, les censures en provenance de la profession agricole en général et plus particulièrement sur le sujet délicat entre tous de la pollution aux algues vertes. Alors, est-ce que l'information bretonne a besoin de s'émanciper? Est-ce qu'elle va s'émanciper? Est-ce qu'elle est sur le point de s'émanciper? Ce seront les questions de cette émission et deux invités. Morgane Large, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes plusieurs choses. Vous êtes journaliste à la station locale RKB, Radio Kreiz-Breizh, Radio Centre-Bretagne. C'est une radio qui est locale, qui est bilingue. Vous êtes aussi conseillère municipale d'opposition dans le village de Glomel, dans les Côtes-d'Armor. Et on verra que c'est important puisque c'est de Glomel qui est parti, notamment le mouvement de rébellion actuel. Grâce à vous, vous nous raconterez tout ça. Philippe Gaillard, bonjour, deuxième
bonjour.
Invité.
Bonjour, bonjour.
Alors, journaliste, vous avez dirigé notamment la rubrique agriculture à Ouest-France. Alors, dans un autre siècle, hein, de 1986 à 1996, mais enfin, vous avez été au cœur du principal journal, d'ailleurs du premier journal français par le tirage à l'époque, et vous êtes donc un témoin de premier plan des rapports entre le monde médiatique et le monde agro-industriel breton. Alors, les journalistes, on le disait, n'en peuvent plus en Bretagne. Et le plus simple pour commencer cette émission, c'est de laisser France 3 Bretagne le raconter.
Chaque jour, notre travail de journaliste consiste à vous informer de la façon la plus claire et la plus honnête possible. Eh bien, en Bretagne, ça n'est pas toujours facile à faire dans le secteur de l'agroalimentaire. Aussi, des journalistes viennent de s'en émouvoir auprès du président du Conseil régional de Bretagne. Ils dénoncent les méthodes de professionnels de la filière en rappelant qu'une de leurs consoeurs a été poursuivie en justice par un grossiste breton.
Une journaliste attaquée en diffamation par l'entreprise Cheritel, grossiste en fruits et légumes à Guingamp. Pour la soutenir et la défendre, une pétition a vu le jour et des médias se sont fait l'écho de cette difficulté d'informer. Aujourd'hui, c'est un collectif de journalistes signé par plus de 350 plumes qui adresse une lettre ouverte au président de la région, Loïc Chesnais-Girard, pour dénoncer ces pratiques.
Quand on est pigiste ou quand on travaille pour un petit média comme le mien, eh bien c'est très compliqué. Il y a des pigistes qui ont eu par SMS des menaces d'attaque en diffamation qui émanaient de chambres d'agriculture. Il y a des pertes de subventions. Il y a des journalistes qui se retrouvent à ne plus être invités par les collectivités territoriales à aucun point presse.
Le président de la région, en réponse, réaffirme lui sa volonté de défendre la liberté de la presse comme principe fondamental de la démocratie.
Si, en tant que président du Conseil régional, je peux d'une manière ou d'une autre permettre de lever les doutes, les angoisses ou les autocensures pour que chacun puisse faire son boulot correctement, bah, je le ferai bien volontiers. Mais ce n'est pas mon rôle, encore une fois, ni de contrôler la presse, ni d'organiser la liberté de la presse.
Le collectif réclame la création d'un observatoire des liberté de la presse pour protéger les journalistes dans leur travail.
Alors, on va revenir sur tous ces aspects un par un. D'abord, chronologiquement, il faut se souvenir que cette rébellion a commencé début mai, le 8 mai, par la publication dans Libération de l'appel d'un collectif dénonçant la situation, je cite, « inacceptable » de Inès Leroux. Inès Leroux, co-autrice d'un livre qui s'appelle Algue verte, d'une BD qui s'appelle Algue verte, l'histoire interdite, dont on va parler beaucoup dans cette émission. Et donc cet appel du 8 mai était co-signé par toute une série de grands noms de la gauche et des écologistes au niveau national, Yann Arthus-Bertrand, François Ruffin, José Bové, Yannick Jadot, etc. Ça, c'était début mai, et la pétition des journalistes bretons est venue ensuite. Alors, à l'origine, il y a un faisceau de phénomènes, il y a un faisceau de choses. Il y a ce procès Cheritel dont on va reparler. Il y a aussi la désinvitation de Inès Leroux à un salon du livre en Bretagne. Morgane Large a été invitée à un salon du livre, le salon du livre de Quintin. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, Inès Leroux était invitée au Salon du Livre de Quintin pour présenter sa bande dessinée. Ce Salon du Livre avait lieu, il me semble, juste avant le premier tour des élections municipales. Et il y a eu des pressions de la part d'un salarié de la Chambre d'agriculture qui est élu à Quintin, des pressions sur l'association organisatrice de ce Salon du Livre, pour qu'il y ait une forme de désinvitation d'Inès Leroux à ce Salon du Livre.
D'accord. Alors, il y a ça. Il y a ce fameux procès Cheritel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qui vaut ce procès à Inès Leroux ? Qu'est-ce qu'elle avait écrit exactement ?
En fait, je vais... Alors, je suis peut-être pas très bien placée pour parler à la place d'Inès Leroux, mais je vais...
On avait invité Inès Leroux, bien entendu. Ça a été notre premier mouvement en découvrant l'histoire, c'est d'inviter Inès Leroux. Et elle nous a dit, ah non, pas moi, il faut inviter Morgane Large. Donc, maintenant...
Non. Inès Leroux a commencé à enquêter sur l'agroalimentaire en Bretagne et sur les algues vertes dès les années, le milieu des années 2010. Elle a rencontré plusieurs témoins, c'est-à-dire qu'elle habitait ailleurs en Bretagne. Elle venait, lorsque tout était bien préparé, elle venait tourner pendant 2 ou 3 jours ce sujet. Et puis, il y a un appel à la préfecture des Côtes d'Armor qui a été déterminant pour elle. Elle prenait le sujet, il était froid ce sujet. Il n'y avait aucune actualité en 2015 sur les algues vertes. Les dernières choses importantes, c'était la mort de 36 sangliers en 2011 sur les plages bretonnes. Et elle appelle la préfecture des Côtes d'Armor pour demander à avoir des informations sur ce cas des 36 sangliers morts. Et la personne en charge de la communication lui dit « Mais je n'ai rien à vous dire puisqu'il n'y a rien à dire. » Il dit « Ah bon, il n'y a rien à... on ne pourra jamais déterminer, lui dit cette personne, de quoi sont morts ces sangliers. » Inès Leroux, plutôt que de renoncer, comme elle est assez opiniâtre, elle a dit « Eh bien, ça m'intéresse, vous pourriez me le dire au micro, ça, ce que vous êtes en train de me dire, qu'on ne pourra jamais savoir de quoi sont morts ces sangliers. » Et là, la personne en question, et me donnez votre nom, bien sûr, et là, la personne en question lui dit « Je vous préviens, si mon nom apparaît dans la presse, je vous attaque en diffamation. » Et ça a été un formidable déclencheur pour Inès Leroux qui s'est dit « Il faut absolument... » que j'aille vivre en Centre-Bretagne et enquêter, parce qu'il se passe des choses qui sont tout de même très atypiques et auxquelles les journalistes nationaux ne sont pas habitués.
Voilà, et donc elle a multiplié les enquêtes.
Elle a eu, à la suite de la diffusion, de l'édition de la bande dessinée, donc c'était en juin 2018, l'édition de cette bande dessinée, juin 2019, elle a eu un procès d'un dénommé Christian Buzon. Christian Buzon, alors il dirige un bureau d'études en environnement et il est président de l'ISTE, c'est l'Institut scientifique de l'environnement. Ça a été fondé entre autres par Lactalis, Dossi, Doux en 1996. Et c'est un scientifique qui produit du discours... Il produit un discours qui dédouane l'agriculture du phénomène des algues vertes. Et donc, il a attaqué Inès Leroux en diffamation.
Qui s'est désisté juste avant le procès.
Elle a travaillé 2 mois à sa défense avec le soutien du service juridique des éditions Delcourt et la revue Dessinée. Et la veille du procès, il a retiré sa plainte en diffamation. Donc, ce qui veut dire qu'on occupe un journaliste sur autre chose que sur son travail. Donc, il perd énormément de temps, il perd aussi de l'argent.
Alors, ça porte un nom, ça s'appelle une procédure Bayon. Et voilà, on appelle ça comme ça. Et donc, il y a un autre procès donc, qui est intenté par cette entreprise qui s'appelle Cheritel. Alors, pour faire court, je crois pouvoir résumer en disant qu'Inès Leroux, au terme d'une longue enquête, là encore, a déterminé qu'il y avait notamment des fraudes de cette entreprise à l'origine des tomates qui étaient vendues. C'est bien ça, Morgane Large ?
Il y a plusieurs choses. Cette entreprise a... été condamné, il me semble que c'était en 2015, pour travail dissimulé. A précédé la condamnation, un article du Télégramme, pour lequel le Télégramme a eu une attaque en diffamation, bien que l'industriel en question ait été condamné sur ces mêmes faits, et le Télégramme a perdu. Quelqu'un qui indique aux rédactions locales en 2017 qu'il y a une fraude sur l'étiquetage des tomates chez Cheritel, grossiste donc, de la région Guingampaise. Il appelle toutes les rédactions. Il y a une fraude à l'étiquetage, c'est-à-dire qu'on étiquette des tomates qui ne sont pas originaires de France avec l'origine France. Aucune des rédactions ne suit. Aucune. Parce qu'en fait, tout le monde a peur du procès. Mmh. Et Inès Liraud s'empare de ce dossier et propose un article à Bastamag. Et là, l'entreprise Cheritel a été condamnée, en effet, pour un problème donc, de la fraude à l'étiquetage. Alors, procès pour lequel ils ont fait appel, mais ça, c'est habituel. Et attaque Inès Liraud en diffamation aujourd'hui. Alors nous, moi je fais partie du comité de soutien à Inès Liraud, nous organisons une conférence de presse à Saint-Brieuc le 22 mai dernier, conférence de presse à laquelle se rendent Ouest France et Le Télégramme, qui sont les deux quotidiens incontournables en Bretagne, les deux journaux incontournables en Bretagne. Aucun des deux ne cite le nom de l'industriel dans ses articles, tellement ils ont peur.
Ils peur disent,
peur d'une attaque en diffamation, ils ont peur d'un procès.
Alors, bon, exemple très précis, on pourrait en trouver des milliers d'autres. Comment vous réagissez à ce fait précis, Philippe Gaillard, le fait que voilà, il y a une conférence de presse donnant notamment des informations sur un industriel qui s'appelle Cheritel, et ni Ouest France ni Le Télégramme ne donnent le nom de Cheritel. C'est du journalisme normal en Bretagne, ça, c'est comme ça que ça se passe?
Alors, sur ce cas précis, bien sûr, moi, je suis plus... D'abord, je suis à la retraite, en plus, depuis 2 ans, donc je veux pas... Mais je vois le sens de la question, le sens profond de la question. A priori, il n'y a aucune raison qu'un canard comme Ouest France, comme vous l'avez dit, qui est le plus gros de France, en plus, en Bretagne, on est partout, il n'y a aucune raison d'avoir peur de qui que ce soit.
Bah alors, pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont peur?
Alors, et donc, c'est là où ça devient intéressant, ouais. C'est que je pense qu'il y a une espèce d'autocensure qui se met en place, et il y a surtout des espèces de consignes. Des consignes
qui est mise en place depuis très longtemps, hein, on est bien d'accord.
Oui. Ce que je veux dire, c'est que les consignes de la direction du journal, c'est on ne met pas en cause quelqu'un tant qu'il n'y a pas une plainte, tant qu'il n'y a pas des faits concrets et avérés. Donc, on est très prudent. Hein, Ouest France, c'est un journal très prudent. Des fois, c'est
là,
très agaçant.
Là, c'est pas seulement Ouest France, hein, c'est Ouest France et Le Télégramme, c'est-à-dire les deux principaux quotidiens bretons.
Bah, écoutez, oui, ça me surprend un peu, mais ça ne m'étonne qu'à moitié dans le sens où Cheritel ne va pas faire couler Ouest France. Cheritel va pas. Je suis un peu surpris. Moi, j'ai pas de souvenir précis de.
Alors, attendez, je comprends pas, parce que en même temps, vous nous dites. Alors, je comprends pas si vous êtes surpris ou pas, parce que vous me dites ça ne me surprend pas. Ouest France est un journal prudent, et vous me dites en même temps, je suis un peu surpris. Donc, par exemple, à votre époque, à l'époque où vous dirigez la école de Ouest France, dans un cas comme celui-là, votre journaliste aurait écrit le nom de Cheritel dans son article ou pas?
Moi, je dis oui. Encore une fois, il y avait cet élément de prudence qui est typique des grands journaux de province, qui était de dire on ne met pas en cause quelqu'un tant qu'il n'y a pas une plainte avérée contre lui, tant qu'il n'y a pas des faits concrets avérés. Là, en l'occurrence, je ne comprends pas, parce que Cheritel, si je comprends bien, c'est une conférence de presse, il y a déjà eu un procès, il est en appel, donc a priori, on devrait citer.
Si Cheritel intente un procès en diffamation, c'est public. Parler de ce procès ne peut pas entraîner une autre attaque en diffamation pour en avoir parlé.
Voilà. Vous mettez aussi le fait que le nom de Cheritel n'a pas été écrit, vous le mettez aussi sur le compte de la prudence.
Mais complètement.
Ou il y a autre chose?
Je le mets complètement sur le compte de la prudence.
Sur pas mal d'affaires, moi j'ai regardé un petit peu, en sachant que j'allais à cette émission, j'ai regardé un petit peu, je me suis souvenu d'un certain nombre de faits. Dans pas mal d'affaires, Ouest France n'est pas un journal d'investigation. C'est pas son ADN. Ouest France est un quotidien qui rend compte au jour le jour, qui suit des dossiers, et Ouest France fait le boulot correctement, mais c'est les autres qui prennent le risque. Ça, c'est classique. Ce que fait Inès.
Non, mais... Au moins, c'est dit franco, là.
Je le dis clairement. Ce que fait Inès, c'est très courageux, parce qu'elle prend, des risques. Ouest France pourrait prendre plus de risques. Mais Ouest France, c'est pas dans son ADN de faire de l'investigation. Ouest France, c'est pas Mediapart, c'est pas le Canard Enchaîné, c'est pas Libé. Et c'est dans son ADN. Donc, on est d'une prudence telle que des fois, ça débouche sur des situations comme ça. À Cheritel, c'est pas normal qu'on n'ait pas donné son nom. Personnellement, je trouve ça pas normal.
Au moins, Philippe Gaillard, vous dites les choses franchement et on va attendre avec impatience les réactions de vos confrères d'aujourd'hui en poste à Ouest France, s'ils se reconnaissent dans la définition que vous venez d'en donner. Alors, l'autre aspect, c'est que cette lettre ouverte s'adressait au président de la région Bretagne, Loïc Chesnais-Girard. Loïc Chesnais-Girard, qui d'ailleurs a répondu à Emmanuel Walter pour Arrêt sur Image. La vidéo sera visible sur notre site en même temps que cette émission, à côté de cette émission. Alors, qui répond que, mais pas du tout, il sera le garant numéro un de la liberté d'expression en Bretagne, hein, on l'a entendu dans le sujet de France 3. Est-ce que vous êtes rassuré, Morgane Large?
Moi, je ne suis pas vraiment assurée. Je ne sais pas si le collectif partage mon inquiétude. Parce qu'à la fin de cette interview, Loïc Chesnais-Girard dit que ce n'est pas son rôle de se porter garant de la liberté de la presse en Bretagne. Et ça, cela m'inquiète un peu. Et je me dis que peut-être cet appel, on aurait dû aussi le faire aux préfectures de région, à l'Assemblée nationale, à nos députés. Et peut-être on va le faire, oui.
Alors, en même temps, sur un des éléments déclencheurs, qui est la crainte du refus de subvention par l'éditeur, alors voilà, il y avait un projet d'édition de Algue Verte, l'enquête interdite, il y avait un projet d'édition en breton.
L'histoire interdite.
L'histoire interdite. Et l'éditeur a. Alors, on dit que l'éditeur a dit je renonce parce que j'ai peur de me voir refuser ultérieurement des subventions par la région. Or, ce que dit l'éditeur, si j'ai bien compris, est un peu plus compliqué, parce que l'éditeur dit aussi qu'il a renoncé pour des raisons économiques, parce qu'il n'était pas certain que l'édition en breton soit rentable.
C'est bien pour ça que l'édition en breton est subventionnée, parce que ce n'est pas un domaine rentable, l'édition d'un livre que tout le monde pourra lire en français, et que les gens vont faire le choix de l'acheter en breton alors qu'ils l'ont déjà lu en français. Et dans cette histoire, je pense que la maison d'édition, non seulement elle a subi des pressions pour revenir un peu sur ce qu'elle avait dit, c'est-à-dire parler de cette autocensure qu'elle s'était appliquée.
On a des preuves de ça, que l'éditeur a reçu des pressions pour revenir à ce qu'il avait dit, sur ce qu'il avait dit.
Faire un démenti, un article pour France 3, et le lendemain, dire non, on n'a pas... De toute façon, il n'y a jamais eu de problème de censure. C'est un problème d'autocensure.
C'est important, parce qu'on va voir qu'il y a quand même beaucoup de pression dans cette histoire, et on va y revenir en détail. Mais là, sur ce point précis, vous avez des preuves que l'éditeur a reçu des pressions pour revenir sur ce qu'il avait dit la veille ?
Eh bien, les preuves existent.
Mais
les
vous
preuves
les avez
existent.
Et vous le... les avez
on a non, mais attendez, preuves, oui.
On peut se dire les choses. Franchement,
oui.
Elles
et
existent.
Le problème, c'est que dans l'appel pour soutenir Inès Leroux, cette histoire d'édition en breton est extrêmement anecdotique.
Oui, enfin,
et elle devient quelque chose de très important, parce qu'en fait, c'est une possibilité pour le Conseil régional de prouver son intégrité, en disant, mais nous, on est prêt à aider n'importe quelle maison d'édition qui aura un projet d'écrire Algue Verte, l'histoire interdite, en breton. Parce qu'en fait, il n'y a aucune maison d'édition qui a encore commencé la traduction. Donc, on est très, très, très loin d'une édition aujourd'hui. Quoi. Mais l'impact d'une BD en breton, elle est très minime.
Oui, on est bien. Non, mais c'est pas l'impact d'une BD en breton, c'est des pressions exercées sur l'éditeur pour que. Je veux dire, on n'est pas dans un problème économique, on est dans un problème politique. Là,
dans Ouest France, la dernière page du Ouest France avant-hier, l'éditeur réadmettait l'autocensure. Alors moi, je comprends mal ces alertes.
Il faudra interroger l'éditeur. Alors, c'est important cette histoire de subvention, parce que votre histoire à vous, Morgane Large, commence aussi par un retrait de subvention de la municipalité de Glomel à la radio dans laquelle vous travaillez. Alors, ça peut paraître encore une fois anecdotique, puisque si j'ai bien compris, il s'agit d'une subvention de 75 euros.
C'est ça.
Dans quelles conditions... Non, mais... C'est anecdotique, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir dans quelle mesure ça représente l'ensemble. On peut en tirer des conclusions sur l'ensemble du système de l'information en Bretagne. Alors, donc, vous perceviez dans votre radio une subvention annuelle. Alors, pourquoi est-elle supprimée ?
Alors,
Déjà, ce n'est pas la première fois qu'on nous supprimait une subvention. Mmh. Alors, nous, on est une radio associative non commerciale, on ne fait pas de publicité. En plus, on est bilingue, on travaille en breton. On perçoit des subventions diverses, du Fonds de soutien à l'expression radiophonique, du Conseil régional au titre du travail qu'on fait sur la langue bretonne, des départements et des communes. Il n'y a pas de communauté de communes pour l'instant qui nous verse des subventions. On avait déjà eu, au début des années 2010, en pleine émission où on donnait la parole à un collectif qui militait contre l'installation d'un élevage intensif sur une commune très proche de notre radio. En pleine émission, on a eu un coup de téléphone. Alors moi, j'étais en direct, c'est pas moi qui ai reçu ce coup de téléphone. On a eu un coup de téléphone du maire de la commune concernée qui nous a dit que la subvention qu'il nous versait, c'était terminée et que c'était inadmissible de donner la parole aux opposants. Donc on était en quelque sorte habitués et ça ne choque pas plus que ça, bizarrement, en Centre-Bretagne. On dit bah, « tu t'attendais à quoi ?» Enfin bon, voilà. Et puis, lorsque Inès Leroy est arrivée en Bretagne, on ne s'est pas rencontrés tout de suite. On a fini par se rencontrer. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'environnement et à l'agroalimentaire et à l'agriculture depuis longtemps. J'ai travaillé sur ces thématiques-là et j'avais du mal à rentrer dans certains milieux. Le domaine de la chasse, j'étais considérée comme une écolo, j'y arrivais pas, donc j'ai passé mon permis de chasse, ça c'était en 2006. Ça m'a permis, quand on me disait « mais vous êtes écolo », je ne suis pas écolo, moi j'ai mon permis de chasse, enfin, parce que bien sûr l'agriculture et les chasseurs sont contre les écologistes, on reste c'est très clivant ici. Et puis ensuite, je suis allée faire une formation agricole, pendant plus d'un an, pour de la même façon avoir une certaine légitimité pour discuter avec le monde agricole. Inès Leroy, lorsqu'elle arrive, donc on finit par se rencontrer, on parle de ses enquêtes. Moi, je lui parle de mon travail à la radio, je lui relate cette histoire de subvention coupée. Je lui relate aussi ce qui se passe dans les conseils municipaux. Dans nos communes, les conseils municipaux sont très souvent aux mains des gros agriculteurs, voilà, qui sont aussi, par exemple, à Glomel, donc, le maire précédent manageait des équipes de ramasseurs de poulets dans des poulaillers industriels. Le maire actuel est agriculteur. Il a été 15 ans commercial pour la plus grosse coopérative bretonne, Triskalia. Il participe à des essais de culture pour Triskalia. Il est président du comité de suivi de site du site de stockage de pesticides qui est à Glomel de Triskalia.
Juste, ouais.
Et donc, j'explique à Inès la façon dont se passent les conseils municipaux et le fait qu'on a énormément de mal en étant dans la minorité à être entendu. Parce que le maire, en ouvrant le premier conseil municipal, avait dit « la minorité aura le droit de s'exprimer, mais on ne tiendra pas compte de ce qu'elle dit ». Ça, c'était très
clair. Au moins, c'est cash.
C'est ça, c'est cash. Et puis, Inès me demande, mais est-ce que tu serais prête à témoigner? Je dis, mais oui, bien sûr, et il n'y a pas de problème. Donc, je témoigne au micro d'Inès Leroy parce que j'étais intervenue en conseil municipal à la suite d'une conférence qui avait été faite par le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, où il y avait, et moi j'ai entendu, effaré des salariés de Glomel, ma commune, qui parlait de fait de destruction de produits phytosanitaires en grande quantité, brûlés à l'air libre, versés à même le sol pour ceux qui étaient liquides, à Glomel, sur la zone de stockage, tout près d'un poney club où mes enfants montent à cheval, tout près de maisons, il y a des riverains qui habitent là. Et donc j'explique.
Et on parle bien là de l'implantation Triskalia. Hein,
c'est Triskalia. Ouais, c'est donc en conseil municipal. Moi, mon témoignage ayant peu de poids, Inès Leroy avait elle aussi fait une émission sur ses salariés glomélois. Là. Et je dis que j'avais entendu sur un média national, en l'occurrence France Inter, l'histoire des salariés de Glomel, que ce qu'ils disaient était extrêmement inquiétant. Je disais que ça donnait une très mauvaise image de la commune, parce que je sais que ça les titille un peu. Et je demande à ce qu'on fasse des carottages sur place pour voir s'il restait des produits.
Attendez, Morgane, là, on va un peu résumer l'histoire. Là, vous parlez d'un témoignage au micro d'Inès Leroy.
Voilà.
C'est pour une émission de France Culture, dans l'émission Les Pieds sur Terre.
Voilà.
Une série de produits
qui s'appelle La Fabrique du Silence.
Qui s'appelle La Fabrique du Silence. Voilà. Vous témoignez.
Et je témoigne.
Et là derrière.
Alors, et là derrière, en mars, vote du budget, la subvention de Radio Kreisbreis est supprimée. La subvention de la commune de Glomel à ma radio est supprimée.
Quelle raison on vous donne pour cette suppression ?
Alors moi, j'étais hors de la salle, puisque quand est votée une subvention qui nous concerne, on quitte le conseil municipal. Mais mes colissiers me regardent et me disent ta petite interview sur France Culture, elle fait un peu mal. Alors, c'est une pression sur mon employeur qui est quand même assez incroyable. J'appelle Inès Leroux, je lui raconte cette suppression de subvention. Elle me dit « Je reviens à Glomel, je réenquête. » Elle revient à Glomel et là, elle interviewe le maire et son adjointe, sa première adjointe, qui lui disent « Pour nous, c'est la même personne. Elle s'est exprimée à la radio. On lui coupe la subvention. » Ça veut dire que, moi, ce que je trouve extrêmement inquiétant, c'est que ces grands groupes agroalimentaires, ils ont énormément d'argent. À chaque fois, on répète, ils ont des chiffres d'affaires de plusieurs milliards. Ils ont 20 000 adhérents. Ils ont en ce moment Eureden, c'est quelque chose comme 7 000 salariés. Enfin, c'est énorme. Ils ont leur propre organe de presse. Parce que le paysan breton, qui est l'hebdomadaire lu dans toutes les fermes, appartient à Triskalia, Groupama et le CMB. Ils ont énormément d'argent pour faire des annonces dans les journaux quotidien, Ouest France, Le Télégramme et les autres. Et en plus, quand il s'agit d'argent public, ils ont aussi la main sur cet argent public. Et je trouve ça effrayant.
Alors, pour avoir une idée du travail radiophonique d'Inès Leroux, je voudrais qu'on écoute un très court extrait de son reportage sur France Culture, parce qu'il n'y a pas eu seulement cette histoire de subvention. Il y a eu, par exemple, il y a toute une controverse entre vous et l'équipe municipale sur les menus de cantine scolaire. Est-ce qu'il doit y avoir du bio dans les menus de cantine scolaire ? Et Inès Leroux a notamment interrogé le maire et une conseillère municipale sur cette histoire de menus bio dans les cantines scolaires. On l'écoute.
À l'époque où il y avait Benjamin Henry, où il parlait, c'est vrai que mettre le bio à la cantine, les produits bio. On est conscient que c'est une chose à faire, mais à l'époque où il soumettait cette idée-là, on avait d'autres dossiers bien plus importants à traiter.
Et qu'est-ce qu'il y avait dossier plus important à l'époque où cette personne vous a fait la demande de produits bio à la cantine ?
On était sur le chantier de giratoire au niveau de la route de Gourin. Il y avait les travaux de restauration du clocher de l'église Saint-Germain à Glomel. Donc voilà, c'était les priorités aussi, les travaux, la sécurité des gens.
Voilà, exemple de questionnement à la Inès Leroux et effectivement de la réponse. On ne pouvait pas mettre du bio à la cantine parce qu'il y avait des travaux sur un giratoire et la restauration d'un
clocher.
D'un clocher. Philippe Gaillard, vous êtes retraité aujourd'hui, vous avez votre totale liberté de parole. On vient de voir là, on a une petite peinture d'un micro-milieu, d'un village breton. On voit comment les pressions s'exercent sur à la fois les opposants, les journalistes locaux. Est-ce que c'est comme ça partout en Bretagne ?
Écoutez, après, ça dépend un petit peu du tempérament de chaque journaliste. Les consignes étaient claires à mon époque. Je pense qu'elles n'ont pas dû changer. Moi, j'ai pas le souvenir en tant que responsable de la rubrique agricole. Hein, c'était quand même une rubrique très importante. On était 16 journalistes. Hein, c'était un gros, dans le paysage agricole breton et des Pays de la Loire et de Normandie, ça pesait très lourd. Donc les consignes n'étaient surtout pas de cacher des choses, de ne pas rencontrer. Au contraire, on parle des algues vertes et on parle de nitrates. Je pense que Ouest France a dû être le premier journal, moi j'ai des souvenirs très précis, à la fin des années 70, à évoquer ces questions d'excès de nitrates dans le sol et à donner la parole notamment à ce qui à l'époque on n'appelait pas encore des lanceurs d'alerte, à des gens comme Eau et Rivières de Bretagne. Nous, Ouest France, encore une fois, on n'est pas un journal d'investigation, c'est clair, c'est écrit dans les gènes. En revanche, on a toujours mis un point d'honneur à donner la parole aux gens qui, eux, pouvaient amener des témoignages. Eau et Rivières de Bretagne a fait un gros travail dans ces années-là. On leur a largement donné la parole et on a lancé le débat sur ces questions-là. La question des algues vertes et des nitrates, ça serait rigolo de regarder dans les archives de Ouest France, d'y avoir des centaines d'articles et de photos. Mais j'ai réfléchi à ça, les nitrates, tant que ça reste dans l'eau, c'est invisible. Donc c'est quelque chose qui parle très peu. Du jour où les nitrates sont devenus visibles par les algues vertes, par les marées vertes, et que ça concernait non plus que les agriculteurs, mais les touristes, les riverains, les ostréiculteurs, là, c'est devenu un phénomène que l'agriculture, que le milieu agricole, la famille, comme je l'appelle, hein, j'appelle ce, parce que je suis d'accord avec avec Morgane, tout le monde se tient par la barbichette dans ce milieu-là. Il y avait un déni, et le jour où ces algues vertes apparaissent à la face de tous, on peut plus nier qu'il y a un rapport direct entre l'agriculture, les nitrates, les engrais, le lisier. Et là, du coup, le discours de ces organisations agricoles a changé. Avant, c'était le déni. On cassait les gens. On menaçait les journalistes. Moi, j'ai été aussi menacé. Mais
Attendez. Oui. On peut pas laisser dire ça comme ça. Vous avez été menacé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui. Pourquoi vous parlez de ça? Pourquoi Ouest France donne la parole à Ouiri?
Mais attendez. Qui vous demande ça? Dans quelle
les responsables agricoles de l'époque, les responsables de la FDSEA, qui sont en même temps souvent responsables à la coopérative ou à la MSA ou au Crédit Agricole. Tout ça, c'est la même famille. Mais on avait des rapports à l'époque qui étaient, je suis désolé, mais Inès ou Morgane sont beaucoup plus fragiles. Nous, moi, je recevais un coup de fil me disant « Mais pourquoi vous parlez de ça? Enfin, c'est fini, Ouest France, vous n'êtes pas mieux à faire que d'eux. » Je dis « Non, nous, on va continuer à donner la parole. » Ça ne me posait aucun problème. Donc, c'est ça que je voulais dire, c'est que Ouest France fait dans la prudence, mais a toujours quand même traité les choses à son rythme.
Dans votre souvenir, ouais. Ces appels s'adressaient uniquement à vous ou est-ce qu'ils s'adressaient aussi à la haute hiérarchie de votre journal, voire est-ce qu'il pouvait y avoir des pressions de style retrait de budget de publicité, par exemple?
Alors, ça a dû arriver, c'est peut-être arrivé, mais moi, au niveau où j'étais, c'est jamais redescendu, ça a peut-être été bloqué. Moi, j'ai réfléchi quand vous m'avez contacté pour cette émission, j'ai pas le souvenir d'une fois de Copagri à l'époque, c'était Copagri, hein, Triscalia, c'était Copagri, ou de la Coperle, ou de grosses boîtes comme ça, dont on parlait beaucoup en bien et en mal, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu du chantage à la pub. Et s'il y en a eu, en tout cas, c'est pas descendu jusqu'à moi. C'est-à-dire que ça a été bloqué. C'est la force d'un gros journal comme ça. Il peut se permettre des choses. Une petite radio, un journaliste indépendant, les subventions, ça va, ça vient, ça saute. Honnêtement, c'est pas descendu jusqu'à la rédaction. Maintenant, que des collègues couvrent une conférence de presse et ne donnent pas le nom de Cheritel, là, je suis très surpris. Je comprends pas. Que la personne qui dit qu'elle a les preuves que les tomates viennent d'Espagne et qu'elles sont estampillées et qu'elle donne ça à toutes les rédactions et qu'on n'en parle pas, ça me surprend. Aujourd'hui, ça me surprend. Alors après, il faudrait voir dans quelles circonstances ça se passe, etc. Mais les journalistes de Ouest France, normalement, les plus jeunes que je connais moins bien, je pense qu'il doit y avoir pas mal de signataires dans votre pétition. Il y a des jeunes journalistes de Ouest France. J'espère.
Vous l'auriez signé vous-même si on vous l'avait demandé, oui. Philippe Gaillard?
Oui.
Vous pouvez toujours d'ailleurs, non? Les signatures ne sont pas fermées.
Je peux, j'ai été sollicité par des collègues, oui. Mais en même temps, vous m'avez sollicité pour cette émission, donc j'attendais de voir un petit peu le... Non, mais bien sûr. Non, ça ne pose aucun problème. Hein.
Morgane Large?
Oui, je ne veux pas monopoliser la conversation, mais il y a une instance qui a été créée, qui est une agence de communication pour les agriculteurs et qui a été créée par les grands groupes agroalimentaires qui s'appelle Agriculteurs de Bretagne et qui reconnaît être allé en délégation rencontrer les rédactions des médias régionaux en 2012. Alors, il y avait Jacques Jaouen, le président de la Chambre d'agriculture, Guy Lebars de la COP Evin, Michel Bloch, qui est président du groupement Port Triscalia, Pierre Billan Poudec, qui est de la SICA Saint-Paul-de-Léon. Et ils ont demandé aux rédactions d'arrêter de parler, de faire des sujets critiques sur l'agriculture, de faire des beaux portraits d'agriculteurs. Il y en a un qui dit « L'un des rédacteurs en chef avoue qu'il n'a pas la maîtrise de tous ces journalistes qui, selon leur sensibilité personnelle, relaient complaisamment le discours d'associations écologistes. »
Non, mais c'est ça m'étonne pas, ça.
Mettent la pression sur l'argent parce qu'ils disent il faut que les médias se rendent compte de leur responsabilité dans l'image qu'ils donnent du secteur alimentaire qui est le pilier de l'économie bretonne.
J'imagine, Philippe Gaillard, j'imagine que ça doit être un des arguments récurrents du secteur agroalimentaire, de dire attention, ne dépréciez pas nos produits, ne dépréciez pas les légumes bretons, le porc breton, à force de parler de nitrate et de fraude à l'étiquette.
Tout à fait. Mais ça, c'est pas nouveau. Vous auriez été journaliste dans les années 80-90, c'était déjà
l'étais,
ça.
Je l'étais.
Je parle à Morgane.
Oui, pardon.
Oui, ça a toujours été comme ça. C'est une famille. Alors qu'il y a l'agriculture bretonne s'est développée très rapidement sur des bases productivistes très très intensives et n'a jamais supporté qu'on remette en cause quoi que ce soit de ce modèle. Et à chaque fois qu'il y avait un petit peu, et West France, c'était pas qu'un petit peu, quand West France parlait des nitrates dans l'eau ou des pesticides ensuite, ou de l'affaire, des affaires, je me rappelle de l'Union laitière normande, il y avait des tournements de fonds à l'Union laitière normande dans la Manche, on en a parlé, à chaque fois, là, le sentiment de cette famille, c'est d'être agressé. Et là, ces agriculteurs de Bretagne, je ne les connais pas, mais ils ont toujours mis en place des espèces d'officines comme ça pour faire pression, pour dire aux gens, voilà ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas nouveau. Et
alors dans la modernisation à marche forcée de l'agriculture bretonne, il y a un personnage essentiel historiquement, il s'appelle Alexis Gourvennec, il est l'objet d'un véritable, peut-être on peut dire d'un culte dans les milieux de l'agriculture bretonne. Et il y a une illustration de ce que vous dites, Philippe Gaillard, il a fait l'objet d'un documentaire dans lequel il est interrogé justement par Roger Jiquel, journaliste breton et ex-présentateur du journal de TF1 pour les plus âgés de nos abonnés, s'ils s'en souviennent. Il est interrogé sur la contestation dont sont l'objet les agriculteurs bretons. On l'écoute.
Jean-Claude Pierre de l'association Eau et Rivière.
D'accord, oui.
En 25 ans, c'est-à-dire une génération, et c'est peu dans l'histoire de l'humanité, on a vu la Bretagne se dégrader à une vitesse folle. Vous parlez des algues vertes. On peut dire que cette année, la Bretagne en a ramassé à peu près 100 000 tonnes.
Et ça vient d'où ? Du nitrate ?
Ça vient du nitrate, mais le nitrate lui-même n'est que l'un des révélateurs du dysfonctionnement de ce modèle qu'on nous présente comme le modèle, la panacée.
Vous voulez dire le modèle de l'agriculture et de l'élevage intensif ?
Essentiellement pour la Bretagne, puisque c'est la locomotive de notre économie.
Le problème, c'est avez-vous conscience et qu'est-ce que vous faites pour au moins diminuer progressivement la pollution ? Votre terre ne pourra pas supporter plus longtemps une telle dégradation.
Mais il n'y a pas la dégradation dont Jean-Claude Pierre parle. Je regrette. Jean-Claude Pierre n'est pas un agronome. Je ne sais pas quel métier il exerce. En tout cas, je lui conteste le droit de venir me donner des leçons de paysan. Ce métier-là, je le connais depuis assez longtemps pour l'avoir suffisamment exercé, pour commencer à être agacé par ceux qui jamais n'ont pratiqué notre métier et qui deviennent tout d'un coup des distributeurs de conseils.
Quand vous voyez ces images, Morgane Large, vous dites c'est le passé, ou est-ce que finalement les responsables agricoles que vous rencontrez sont toujours dans cette mécanique psychologique du déni?
Ah, mais moi, je trouve formidable ce reportage. Je l'avais jamais vu. Je trouve qu'il y a tout et qu'on y est encore, quoi. Je ne sais pas quel est le métier de ce monsieur. Après, les gens sont
lequel.
En parlant de Jean-Claude Pierre, Alexis Gouvernet, ce monsieur, c'est parce qu'on fait des faux métiers, en fait. Eux, ils font des vrais métiers, puis nous, on fait des faux métiers. Et en plus, ce sont eux qui travaillent, ce ne sont pas nous, quoi. Ce ne sont pas les journalistes. Nous, on est des écolos, bobos, parisiens. Enfin. Et actuellement, oui, le discours est peut-être un tout petit peu plus nuancé, mais pas vraiment. Il y a eu, à la suite des sangliers morts sur la plage de Morieux en 2011, une partie de football organisée par la FDSEA et les JA, à laquelle Jacques Jaouen, que j'ai cité tout à l'heure, pendant laquelle Jacques Jaouen a répondu aux médias en disant il va falloir arrêter de parler des algues vertes. Ce qui est important, c'est le moteur économique de l'agriculture en Bretagne.
Et on a vu les images sur le site du Télégramme, mais si vous voulez bien, on peut les regarder pour le plaisir.
Les agriculteurs n'ont pas honte de leur métier. Nos efforts pour la protection de l'environnement sont concrets et n'en déplaisent à certains, se mesurent déjà en termes d'amélioration de la qualité de l'eau.
On en a assez d'être dénigré à chaque fois pour des choses. On n'est pas la responsabilité de tous les maux. Et on peut pas continuer à tirer sur une profession comme ça qui fait tant d'efforts. Au bout d'un moment, c'est inacceptable, inadmissible. C'est une profession qui a fait tant d'efforts et. 15 jours, 3 semaines, une campagne médiatique qui met tous les torts sur le dos de l'agriculture, ça devient inconcevable, c'est inadmissible.
Bon, la partie de foot sur la plage, évidemment, c'est une image extrêmement provocatrice, et en plus une image qui ne signifie pas grand-chose, puisque de ce qu'on peut voir, en tout cas à l'image, c'est une plage dans laquelle il n'y a pas d'algues vertes. Il faut rappeler d'ailleurs que sur un très grand nombre de plages bretonnes, il n'y a pas d'algues vertes, et on peut y accéder, et on peut s'y baigner.
Parce que je trouve... Pardon, allez-y. Philippe.
Allez-y, non, allez-y, Morgane.
Non.
Philippe, plutôt.
Oui, non, si je peux me permettre. Le discours de Gourvennec, là, il est en effet, c'est très bien, ça résume bien ce que dit J.K.L. Gourvennec. On est en plein, là, on est dans les années 70, 80, là, 80, je crois. J.K.L., c'est 80. Fin des années 80. Le déni, d'abord, le déni. Ensuite, le dénigrement, c'est-à-dire que qui parle, qui nous critique, des gens dont on ne sait pas ce qu'ils font, des écolos, etc. Ça, c'est classique. Le déni, jusqu'à ce qu'on oblige le monde agricole, parce que c'est passé. Quand ils disent qu'ils ont fait des efforts, ce n'est pas tout à fait faux, mais ils y ont été obligés. C'est-à-dire que c'est l'épée dans les reins des normes européennes, des directives, des lois qui ont fixé des maximums, et ça les a obligés. Mais ils ont évolué en demandant beaucoup d'argent. J'ai plus en tête le montant, mais c'est des dizaines de millions d'euros, peut-être plus, beaucoup plus, qui ont été déversés sur la Bretagne pour qu'ils se mettent aux normes, pour que... Et c'est vrai que le taux de nitrate a baissé. Quand ils disent qu'ils ont fait des efforts, c'est pas faux, mais c'est toujours contraint et forcé. Et Gourvennec, juste pour la petite histoire, c'est quand même l'homme qui a organisé la production bretonne dans les années 60, avec des méthodes très autoritaires, très efficaces, très autoritaires. Il rentrait de la guerre d'Algérie, lui, hein, donc il avait des méthodes de combat, des manifestations très dures, très violentes, mais il a obtenu du gouvernement à l'époque, c'était De Gaulle encore, hein, et des passe-droits, de l'aide, de l'argent, pour faire évoluer leur agriculture. Et c'est fascinant ce que dit Gourvennec là, je le connaissais, cette interview. C'est aujourd'hui, c'est plus ça, parce que je connais des responsables, j'ai connu des responsables agricoles plus intelligents et moins sectaires. Il y en a. Mais apparemment, dans le coin où habite Morgane, ils sont particulièrement gratinés, parce que.
Ah bon? Ah ouais, elle a pas de chance, Morgane, alors.
Non, mais je suis dans la discipline.
Non, mais attendez, Morgane, ils sont spécialement gratinés chez vous, ou c'est les mêmes partout en Bretagne?
Non, mais nous, la géographie est assez particulière. Parce que ouais. Le grand président de Triskalia, qui s'appelle Georges Galardon, est maire d'une commune qui est toute proche d'ici, qui s'appelle Sainte-Tréfine. Il est aussi vice-président à la communauté de communes en charge de l'économie, ouais. Et président de Triskalia. Donc voilà, qu'est-ce qui reste comme place,
ouais. non, c'est
pour
clair.
Une parole libre dans... Un paysage tel que celui-là. Pardon, excusez-moi.
C'est les avantages de l'émission en visio. Ouais. Il y a une spécificité psychologique, j'ai envie de vous demander, Philippe Gaillard, il y a une spécificité psychologique de l'agriculteur breton par rapport à l'agriculteur français, alors sans faire de l'essentialisation, évidemment, mais où est-ce que... Parce que, je veux dire... Partout en France, aujourd'hui, les agriculteurs se sentent menacés, mis en cause, accusés par les informations sur les pesticides, etc. Donc ça, c'est partout. Mais est-ce qu'il y a une spécificité bretonne ?
Oui, très clairement oui, parce que encore une fois, Ouest-France couvre 3 régions, la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. Et les réactions et le fonctionnement des paysans, des agriculteurs dans ces 2 autres régions... est tout à fait différent. Il y a beaucoup moins d'ostracisme, il y a beaucoup moins de sectarisme dans les pays de la Loire et en Normandie qu'en Bretagne. Alors pourquoi ? Parce que la Bretagne, quand la Bretagne s'est lancée dans son développement, c'était un petit peu il fallait faire quelque chose dans la fin des années, à la fin de la guerre, dans les années 50. Il y avait beaucoup trop d'agriculteurs. Il fallait donc les fixer. Et pour les fixer, il fallait une agriculture dynamique. Il fallait, etc. Bon bref, ils ont pris à bras le corps. Les Bretons sont plutôt courageux et obstinés. et organisé. Et des types comme Gorenec ont vraiment mis en place un système d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire qu'ils ont, ils se sont mis à produire du lait, du cochon, des volailles de façon intensive avec des recettes. On a appliqué des recettes. Tous les cycles
et
de forme.
Et avec toutes les conséquences sanitaires et écologiques.
Oui, mais à l'époque, personne n'en parlait et eux-mêmes ignoraient complètement qu'en mettant des pesticides, ils allaient empoisonner. C'est quand on a commencé à remettre en cause les uns ou les autres. Alors, West France, à sa façon, et puis d'autres, a commencé à dire, mais attendez, là, vous savez ce que vous faites, vous êtes en train de vous empoisonner. Et là, les Bretons, dans ces cas-là, sont redoutables aussi parce qu'ils forment bloc. Ils peuvent être très, très désagréables et voire très, très... Moi, je n'ai pas eu de relation directe avec Gourvennec à l'époque parce qu'il était sur la fin de son mandat, mais avec Guillaume Rouet, par exemple, qui est un de ses dauphins, un de ses poulains, on s'est pris la tête, mais violemment, plusieurs fois, parce qu'il reprochait justement à West France... C'était un gribashing déjà, et moi je lui disais, mais on se tutoyait, parce qu'on se connaît bien. L'avantage d'un canard comme West France, c'est qu'on connaît ce milieu-là. On le connaît peut-être trop, on le diront certains, et ce qui fait que ça... D'où la prudence. Mais moi, je me rappelle avoir eu des tête-à-tête avec ce Guillaume Rouet, en lui disant, mais écoute Guillaume, je suis désolé, mais les preuves sont là. Votre système, il est à bout de souffle. Arrêtez de... Ouais, Gaillard, tu fais chier. Enfin bon, c'était d'une franchise et d'une violence extrême. Donc, les Bretons sont très particuliers. Sont très, très particuliers. Je vais plus loin. Je connais un truc qui m'a toujours frappé chez les agriculteurs bretons. Je connais un éleveur de volailles proche de ma belle famille. Et j'ai jamais compris une chose, et ça va éclairer, je pense, le débat. J'ai jamais compris qu'on pouvait être producteur de volailles, en l'occurrence, et ne pas manger ce qu'on produit. Cette personne en question a un poulailler, a deux ou trois poulaillers énormes, pour, à l'époque c'était doux, je crois, enfin, ou des gros faiseurs. Ils faisaient du poulet en 6 semaines ou en 7 semaines pour être congelé et partir au Moyen-Orient. Et quand on allait manger chez eux ou à côté, il amenait des poulets, mais je lui dis, mais c'est les poulets de ton éleveur. Ah non, non, tu déconnes. Non, non, moi j'élève des poulets à côté. Je dis, mais tu manges pas les poulets que tu élèves. Ben, t'es fou, non? Et je lui dis, mais tu regardes dans la glace le matin. Enfin, comment peut-on produire des choses qu'on ne mange pas?
Philippe Gaillard, vous l'avez écrit dans West France, ça?
Je crois l'avoir écrit, oui. Vous
n'êtes pas sûr?
Je ne me souviens pas, il faudrait le retrouver. En tout cas,
c'est une histoire tellement extraordinaire et aberrante. Que moi, je me dis, voilà, je suis journaliste, on me raconte cette histoire-là, je l'écris tout de suite. Décidément, c'est le festival du téléphone.
Peut-être pas directement sous forme de témoignage comme ça, mais dans les papiers que j'ai faits, j'ai dû en parler. Ouais. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me et quand on dit ça aux responsables agricoles et agroalimentaires, ça les trouble un peu, ça les trouble.
Je comprends que ça les trouble, oui. Mais enfin, en même temps, j'imagine qu'eux-mêmes ne mangent pas les poulets qu'ils produisent, donc ça doit pas les troubler tant que ça.
Le phénomène de l'agriculture biologique, par exemple, qui était très marginal dans les années 70-80, quand on en parlait, nous, pareil, on se faisait traiter de bobos, etc. Pourquoi vous donnez la parole à ces gens-là? L'agriculture biologique aujourd'hui, c'est, je ne sais plus, 10-15% de l'agriculture bretonne. Ça devient incontournable, même pour Triskalia. Triskalia est obligé de...
Alors, je voulais intervenir.
Oui.
Philippe Gaillard, ces poulets standards qui partent à l'export sont élevés entre 28 et 30 jours.
Oui, 28
et 4 semaines.
Ah, et vous disiez 6 semaines ou 7 semaines,
oui,
c'est encore plus rapide.
Moi, le reportage qu'on vient de voir là sur la partie de foot et ce qu'on entend, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'à partir d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait une uniformisation du discours des agriculteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient conseillés par les grands groupes coopératifs et ils ont tous dit la même chose, ce qui perdait énormément d'intérêt pour nous. Parce que déjà, ils disaient tous la même chose et en plus, la plupart
du temps,
des éléments de langage et ils refusaient de nous parler. Il y a des groupes...
Mais ça n'a pas toujours été comme ça, Morgane Large? Il y a eu un moment où c'était différent et vous aviez le sentiment de davantage de sincérité?
Ah ben bien sûr, oui, moi, tous les milieux agricoles que j'ai pu côtoyer parce que j'ai fait des enquêtes, enfin, J'ai fait des émissions, pas des enquêtes, des choses plutôt au long cours, sur des sujets un peu détournés, où j'allais voir tous les paysans d'un secteur agricole sur 4-5 communes. Ben là, ça me permettait d'avoir des conversations très longues et de sortir de ce discours uniformisé. Et le souci, c'est...
Non, parce que ce que nous disait Gaillard, c'est que quand même, dans toutes les années 50 et 60, peut-être 70, les agriculteurs étaient caporalisés par Gourvennec, en gros. Et ce qu'on ressort aujourd'hui de ce que vous dites tous les deux, c'est qu'aujourd'hui, on leur donne des éléments de langage. Mais en fait, les techniques sont différentes, mais le résultat n'est pas très différent.
Il y a une petite différence quand même, c'est qu'à l'époque, ils étaient beaucoup plus nombreux. Et donc, il y avait quand même, dans les rapports syndicaux, il y a eu des scissions historiques entre la FDSEA du Morbihan et la Confédération paysanne. Enfin, il y a eu des scissions historiques. Il y avait des gens qui étaient critiques, qui sortaient tous du même creuset. C'est drôle, c'était la JAC, hein, la Jeunesse Agricole Chrétienne. Ils ont tous été formés comme ça. Gourvennec, d'un côté, et un type comme Bernard Lambert, qui était le leader de l'agriculture des travailleurs paysans, ils ont eu la même école de formation de pensée. Ça a donné un Gourvennec, ça a donné un Lambert. Donc, à l'époque, ils étaient plus nombreux et, en tant que journaliste, on accédait très facilement au président, au directeur, au responsable de tel ou tel atelier.
Surtout quand on venait pour Ouest France.
Exactement. Aujourd'hui, et Morgane a raison, et ça, c'est vrai depuis une bonne dizaine d'années au moins, la profession a complètement bloqué la parole et a organisé à des agences de com très, très performantes, ce qui fait que maintenant, quand on veut avoir un responsable agricole, il faut prendre rendez-vous, etc.
À l'époque où vous dirigiez le service agricole de Ouest France, Philippe Gaillard, vous viviez en Bretagne ou vous viviez à Paris ?
Ah non, j'étais à Rennes. Oui,
vous étiez à Rennes ?
Je suis parisien d'origine, donc je porte un regard assez... J'ai toujours porté un regard assez distancié sur le monde agricole, mais j'ai une formation d'ingénieur agri. Mais je ne suis pas du milieu, je ne suis pas breton, je ne suis pas ligérien, mais j'aime ce milieu, j'ai appris beaucoup de choses en le côtoyant, et je l'aime d'autant plus que je pense qu'il se, par moments, il s'est fourvoyé dans des... Donc j'ai toujours bossé en regardant ça très froidement, sans état d'âme particulier, j'ai pas médité.
Vous avez quitté la rubrique de votre plein gré, dans quelles conditions vous l'avez quitté ?
Non, la rubrique a été... Alors, c'était une très grosse rubrique dite spécialisée, et à l'époque, la rédaction en chef a voulu intégrer l'agriculture dans un grand ensemble économique du journal, et du coup, gagner des postes, etc.
Non, mais le sens de ma question, c'est pas d'une manière ou d'une autre les pressions exercées sur vous qui vous ont fait quitter la rubrique, c'est ça le sens de ma question.
Non, mais par contre, je l'ai pas quitté tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on m'a dit tu n'es plus chef de la rubrique, mais pas parce que je faisais ce boulot-là, parce que je le faisais comme ça, parce que j'avais pris d'autres positions en interne. J'avais un mandat syndical, j'étais délégué j'avais des mandats syndicaux et je me suis opposé à la direction en interne pour d'autres choses.
Donc, Madame Large,
je pense aussi en écoutant Philippe Gaillard que les rédactions des quotidiens, notamment en Bretagne, se sont dessaisies de la question agricole. Parce que les questions sont complexes, parce qu'il y a une histoire d'annonceurs, évidemment, et qu'on a laissé la parole agricole à la presse agricole spécialisée, qui est en fait, il y a une porosité énorme entre le journalisme et la communication, et ce qui fait aussi que le monde agricole ne comprend pas qu'on puisse émettre une parole critique envers l'agriculture. On a à la lecture de la presse agricole, moi je lis la presse agricole, il y est délivré une image positif de l'agriculture à l'excès, en permanence. Et il y a des articles où on ne sait plus si on lit un article sur, je ne sais pas moi, la récolte du blé sur une ferme, ou si c'est une publicité pour Triskalia, puisqu'on dit le technicien Triskalia est là, il a suivi toute la culture, il a donné les conseils, et il est encore là pour peser, les grains.
Morgane Large, quels sont vos rapports personnels à vous avec les correspondants de Ouest France et du Télégramme, alors ou dans votre village, ou dans la micro-région? J'imagine que vous les connaissez, j'imagine.
Alors moi, je vais vous faire rire, nous on est le parent pauvre, les radios, c'est-à-dire quand il y a des conférences de presse, déjà on est content qu'on ait été invité, parce que souvent parfois, on a été mis au placard aussi à la suite de mes émissions. On arrive à la conférence de presse ailleurs. Tout se passe pour la presse écrite. Et puis après, nous, on a 2 minutes dans un petit coin pendant que tout le monde boit l'apéro pour enregistrer un son hyper pourri. Alors qu'on aimerait bien faire des émissions un peu plus...
Non, mais ça se passe souvent comme ça. Ça se passe souvent comme ça dans les conférences de presse pour qui les a fréquentées un peu. Non, je m'interrogeais sur vos rapports avec les correspondants, avec les journalistes, journalistes d'ailleurs, correspondants d'Ouest France et du Télégramme, quand vous avez des informations à leur faire passer sur le conseil municipal, sur Triskalia, sur le bio dans les cantines, sur tous ces sujets. Comment ça se passe?
Moi, je suis amie avec les correspondants. Enfin, on échange beaucoup, on s'échange des informations, mais eux, ils ne sont que correspondants locaux. Il y a des sujets sur lesquels ils s'interdisent d'écrire.
S'interdisent.
Par contre, ça me fait très plaisir. Oui, bien sûr. Ça me fait très plaisir de voir que le correspondant local du coin du Télégramme a posé sa signature à l'appel des journalistes pour la liberté d'informer sur l'agroalimentaire qu'on est en train de lancer.
Vous lui en avez parlé?
Pas du tout.
Vous allez lui en parler?
J'ai vu sa signature, donc quand je vais le croiser, je vais lui en parler. Ça me fait plutôt très plaisir. C'est des gens c'est eux qui sont le mieux informés, hein, franchement. Les correspondants locaux, ils savent tout. Ils savent tout, ils ne peuvent rien dire.
Pourquoi vous avez été surprise, puisque vous le connaissez bien? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été surprise?
Eh bien, je suis très contente parce qu'ils se sentent concernés. Ça veut dire que notre appel, il n'est pas, comme a dit Marc Le Fur, un appel de journalistes écolos parisiens. C'est un appel que tout le monde se sent concerné, même le correspondant local du coin. Signatures pour moi.
Il habite Glomel?
Il habite Glomel en plus.
Ouais. Habite Glomel, donc vous le connaissez bien, vous le croisez fréquemment.
Oui, bien sûr, ouais.
Et vous avez été sûr, mais rien dans vos conversations préalables n'avait pu vous faire penser qu'il pouvait signer cette pétition.
Ah, mais plein de choses m'ont fait penser qu'il pouvait la signer. Seulement, je pensais qu'il allait se censurer et qu'il n'allait pas oser le faire.
Ouais.
Quand vous dites qu'ils s'interdisent de traiter des sujets, vous pensez à quoi?
Mais déjà, on leur demande de changer de sujet tous les jours. Ils ne peuvent pas rester sur une thématique, comme l'a fait Inès Leroux. Inès Leroux, elle a eu quand même l'avantage de pouvoir travailler des années sur une thématique. Nous, on nous demande de changer tous les jours, de passer à autre chose. Et après, évidemment que s'il y a un sujet un peu brûlant, on va demander aux rédactions des grandes villes de venir le traiter. Le correspondant local, il est quand même assez méprisé, alors qu'ils font un super boulot.
Et quand le journaliste qui vient d'une grande ville arrive à Glomel, il vient vous voir, il vient recueillir votre point de vue d'opposante ou de...
Pas du tout. Il y a Guerquines Leroux qui a parlé avec les journalistes locaux et qui, quand elle s'est servie de notre travail, a cité nos noms, par exemple, dans sa bande dessinée.
Alors je voudrais juste faire un petit point de détail. Quand on dit journaliste et correspondant, le correspondant local n'est pas journaliste, il n'a pas vocation à... Alors, il est là pour faire un relais. C'est un vieux débat dans la profession. Hein. Il est payé par points et par photos, etc. Il est contrôlé, entre guillemets, par le journaliste le plus proche. Toi, ça doit être Guingamp,
non? C'est la rédacte de Guingamp. Ouais. Il y a un secrétaire de direction.
Et le correspondant local... Il est correspondant, il n'a pas vocation à prendre des coups sur la tête, il n'est pas protégé par une direction, par une rédaction en chef.
Non, on n'est pas d'accord. Non, mais résultat des courses. Des courses. En préparant cette émission, par exemple, j'ai vu que le lac de Glomel, du fait de la proximité de Triskalia, était interdit à la baignade chaque été.
Proximité d'élevage, pas forcément de Triskalia, mais c'est un problème de cyanobactéries et de phosphore dans l'eau, donc c'est l'agriculture intensive qui génère ça.
D'accord. Mmh. Bon, j'ai vu ça. Il y a eu, à un moment ou à un autre, un grand papier dans Ouest France, dans le Télégramme, sur l'interdiction de baignade dans le lac de Glomel, en essayant d'en comprendre les raisons. Il y a eu ça, Morgane Porte? Morgane Large, pardon.
Alors, je ne peux pas parler du lac de Glomel, là, mais je pense, par exemple, à la suite de... C'est un souvenir assez lointain, je vais peut-être être imprécise, mais à la suite de la sortie de la BD d'Inès Leroux, Algues Vertes, il y a eu des articles qui sont sortis, et notamment, il me semble, un article, enfin, c'est sûr que c'est un quotidien régional, il me semble que c'est le Télégramme, ça se passait à Concarneau, et c'était... sur les algues vertes, les estivants font avec. Et là, il y avait des choses du genre, les enfants jouent au foot dans ce tapis vert brun. Enfin, c'était incroyable. Il y a eu des articles hallucinants l'an dernier à la suite de la sortie de la bande dessinée d'Inès Leroux.
D'accord. Et c'est tout ce que vous avez en mémoire concernant l'interdiction de baignade dans le lac de Blomel.
Là, c'était sur le littoral, c'est pas le lac de Blomel. Non, mais concernant l'interdiction de baignade, oui. Eh bien voilà, on à la limite, quand le panneau est apposé par le maire est contraint d'apposer un panneau pour dire que la DAS, au regard des résultats des analyses, oui. interdit la baignade, et le maire interdit la baignade, eh bien c'est un entrefilet dans le journal. Hein.
C'est normal.
Oui, c'est pas normal. Ben non, c'est pas normal. Non. Enfin, là,
je vous pose la question, j'ai une idée sur la réponse.
Ben non. Alors moi, je pense que chaque journaliste a sa place à Guingamp.
On a perdu. Je crois qu'on a perdu Philippe Gaillard qui vient de friser. Philippe Gaillard, si vous nous entendez, je pense que le plus simple
est de faire remonter.
Philippe Gaillard, je crois que le plus simple, c'est de vous déconnecter, de vous reconnecter, parce que là, la connexion est fatiguée. Et pendant que vous le faites, et avant d'accueillir Laëlia pour la fin de l'émission, j'ai une question de curiosité, Morgane Large. Vous habitez ce village, je veux dire, dont vous croisez tous les jours les gens que vous critiquez. Comment ça se passe, les rapports humains? Je veux dire que...
Mais moi, ça va plutôt bien parce que je suis assez en paix déjà avec ce que je peux porter comme message. Et puis, je n'ai pas grand-chose à perdre. Je n'ai rien à vendre. Enfin, voilà. Après, j'ai eu... on est dans un endroit où il y a peu d'emplois. Alors, c'est sûr que quand il y a un de mes collègues de la radio qui me dit, à la suite d'un de mes reportages ou d'un de mes témoignages sur France Culture, tu devrais faire attention à ce que tu dis, ce n'est pas pour me rassurer, ça c'est clair.
Mais en même temps, pour voir les choses un peu sous l'aspect optimiste, vous n'avez jamais eu vos pneus crevés, il n'y a jamais eu de... Voilà.
Non, on m'a accusé de salir la Bretagne.
Voilà.
Alors ça, je trouve ça dur parce que je parle breton, mal, mais je parle breton. J'ai fait l'effort d'apprendre à parler breton. Je travaille pour une radio associative bilingue. Et quand on est accusé de salir la Bretagne et les Bretons, c'est très difficile.
C'est ça qui vous fait mal?
Ah oui, ça me fait mal.
Je crois que là, Elia, alors je ne sais pas si...
Est-ce qu'on me voit bien ou pas? Non, j'avoue.
Oui, là,
ça va là?
Non, vous êtes revenu son non, et image. Vous êtes revenu. Par contre, on ne voit pas apparaître là, Elia.
Si j'apparais.
Elle apparaît.
Vous voyez, je suis apparue. Voilà. Alors, oui. Donc, eh ben, c'est à moi d'enchaîner. Oui, alors j'ai un petit peu peur dans cette chronique, je veux dire, en vous écoutant, on a un peu peur dès qu'on parle de se faire attaquer en diffamation, mais je vais quand même essayer, parce que en vous écoutant, en écoutant votre langage, les mots que vous avez employés, sans connaître les faits, moi, ça, ce à quoi ça m'a fait penser, on dirait une espèce d'histoire dans une sorte de mafia bretonnante chabrolienne qui se manifeste notamment dans son rapport à la parole. Une parole qui est jamais directement interdite, mais qui est empêchée. Daniel, tu parlais de procédure bâillon. Et c'est vraiment, enfin, cette image-là, pour le coup, qui me venait en vous entendant parler, voilà, essayer de parler tout en ayant un bâillon sur la bouche. Et Morgane, les premières interactions dont vous parliez à propos d'Inès Léraud, c'est quelqu'un qui dit « je n'ai rien à dire parce qu'il n'y a rien à dire ». Donc ça, c'est vraiment dire en disant qu'on ne dit pas, tout en disant un peu, c'est vraiment proche de ce qu'en rhétorique on appelle la prétérition, en fait, voilà, de dire tout en ne disant pas. Et c'est cette parole empêchée c'est une parole empêchée, mais vraiment dans une atmosphère particulière. Moi, j'ai dit mafieux parce que ça me faisait penser à cette idée de petit milieu, de pression permanente, mais à la fois permanente, mais à la fois individualisée et diffuse. Ben voilà, ça fait vraiment penser à ça. Et d'ailleurs, à propos du vocabulaire que vous avez employé, Philippe, vous avez parlé de chantage. D'ailleurs, encore un mot lié à la parole. Là, pour le coup, c'est une parole qui est contrôlée. Et vous avez utilisé plusieurs fois, trois fois au moins, le mot de famille, de parler de gens de la même famille. Ça, c'est totalement du vocabulaire mafieux. Et je dis mafieux, mais peut-être qu'on pourrait dire qu'on devrait dire conflit d'intérêt quant au fait. D'ailleurs, conflit d'intérêt, c'est pas un mot que vous avez employé. Mais vraiment, j'insiste sur cette atmosphère. Moi, ça m'a frappé le vocabulaire psychologique, rassurer, l'inquiétude, ce que vous disiez, Morgane, à la fin, tu devrais faire attention, ça c'est de la menace. Et le mot prudence, vous avez employé plein de fois le mot de prudence, mais moi, je comprenais pas toujours. C'était de la prudence déontologique, par exemple, pour un journal de pas parler de faits qui ne sont pas encore avérés, ou si c'était de la prudence par rapport à des pressions. Et ça peut très bien aller avec l'autocensure. Ouais. Prudence, au départ, l'étymologie de prudence, c'est celui qui sait d'avance. Donc, quand on sait d'avance, on prévoit et on oriente sa parole en fonction de ça. Et voilà, la peinture d'un milieu où toute parole engage, où elle est potentiellement dangereuse, où on se comprend à demi-mot, ce qui peut encore une fois aller aussi avec l'absence de consignes explicites, on n'en a pas besoin, et l'autocensure. Et on sent cette atmosphère-là par rapport à la parole, par rapport à votre langage. Par exemple, c'était intéressant, Daniel, t'as pas arrêté d'insister sur le fait que justement, dans l'émission, on avait une parole libre. Tu dis totale liberté de parole, tu dis parler franchement, au moins vous êtes franc, au moins c'est cash. Ici, on peut se dire les choses franchement. Et j'ai l'impression que t'avais besoin d'insister sur ça parce que les intervenants, alors que vous nous avez dit plein de choses, vous avez eu beaucoup d'euphémismes, surtout au début de l'émission. Et après, j'ai l'impression qu'on a eu moins des formules périphrastiques, cet élément de prudence, des espèces de consignes, une espèce d'autocensure. Pour Inès Leroux, une forme de désinvitation. Visiblement, elle a été désinvitée, quoi. Enfin, mais une forme de désinvitation. Philippe, vous aviez une métaphore géniale, quand même, dans un milieu où tout le monde se tient par la barbichette. Peut-être une métaphore qui fait que, du coup, on n'emploie pas les mots, peut-être de lobby, de conflit d'intérêts, voire de corruption. Et moi, j'ai beaucoup aimé, enfin, en tout cas, ça me semble révélateur de cette atmosphère, mais c'est bien, ça nous fait ressentir cette atmosphère au début de l'émission, quand Morgane vous disiez des endroits où il se passe des choses très atypiques. Là, j'avais l'impression d'être au début d'un simulacre, peut-être d'Hamlet, il y a quelque chose de pourri au royaume de Bretagne. Mais je pense que, de fait, c'était révélateur. Ça nous dit quelque chose de cette atmosphère et d'atmosphère dans laquelle vous travaillez et de ces enquêtes. Et voilà, parce que, de fait, vous nous avez dit plein de choses. Hein. Moi, je pense que cette émission, elle est très intéressante sur les enjeux autour des conflits d'intérêts, mais plus généralement autour de l'écologie, parce qu'on nous dit souvent que pour éviter aussi bien le dumping social que des désastres écologiques, faut acheter local, français ou local, et on voit bien que voilà, ça ne suffit pas. Donc, je pense que c'est des enjeux très importants. Et en même temps, vous nous avez dit tout ça, et j'ai l'impression qu'on retrouve dans vos prises de parole cette atmosphère autour de la parole empêchée. Et pour conclure, puisqu'on a parlé de diffamation, Morgane, vous disiez qu'on vous accusait de salir la Bretagne, diffamer, c'est vraiment ça, c'est la connotation du mot. Mais je voudrais rappeler que aussi, avant de prendre cette connotation négative, l'origine étymologique du mot diffare en latin, c'est divulguer. C'est l'action de divulguer, de répandre. Et c'est peut-être, avec ce sens premier-là, ce dont on parle ici, la difficulté du travail de divulgation. Voilà pour moi.
Merci.
Merci beaucoup, Laëlia. Alors, sans aucune prudence, l'un ou l'autre souhaite réagir à cette chronique de Laëlia.
Ah non, à part pour...
Avec une grande franchise. Oui. Hein.
j'ai adoré la parole « pas interdite, mais empêchée ». On y est, voilà.
Ouais, on y est. Bon, et puis, en tout cas, il y a quelques... Oui, Philippe Gaillard.
Oui, juste, je n'ai pas utilisé le mot, mais quand j'ai parlé de famille... le mot mafia, bien sûr, est derrière. Et c'est ça. Alors, avec le côté protecteur pour le milieu et avec le côté excluant pour tous ceux qui n'en sont pas, quoi. La famille.
Ouais.
Quoi,
ouais. La famille, c'est la famille.
Très bien, merci. Merci à tous. Ce qui sera particulièrement intéressant à observer, ce seront les comptes rendus que feront éventuellement de cette émission Ouest France, le Télégramme de Brest et autres médias bretons. On observera ça avec beaucoup d'intérêt. Merci encore. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir. Salut.